soir, promulgation depuis le 31 décembre dernier de la nouvelle loi sur le contrat de bail. Parmi les innovations, cette loi prévoit notamment une peine d'emprisonnement pour un bailleur qui reçoit plus de 3 mois de garantie locative. Le président national de l'association des locataires affirme qu'avec cette nouvelle loi, le locataire est sécurisé et peut vivre paisiblement. Quelle analyse faire de cette loi? Pour en parler, je reçois Charles Cuesso. Bonsoir Monsieur Cuesso.
Bonsoir.
Vous êtes chef de division urbaine de l'habitat à Tchangou. Maître Ruffin Louko, bonsoir.
Bonsoir, Ali Rongo.
Vous êtes juriste et chercheur en droits humains. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Jean-Jacques Benamey, président national de la Ligue des locataires. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
La promulgation le 31 décembre dernier de la nouvelle loi sur le contrat de bail est saluée par la Ligue des locataires. Dans une interview exclusive à Radio Capi, son président national Jean-Jacques Benamey est rassuré qu'avec cette nouvelle loi, le locataire est sécurisé. Sa structure, dit-il, va lutter pour que cette loi soit de stricte application. Berry Franklin Louchaka revient sur les grandes lignes de cette loi.
C'est une loi des 49 articles répartis en 10 chapitres. Le cadre est bien fixé dès le premier article de cette loi qui stipule clairement que la présente loi régit les rapports entre le bailleur et le preneur et s'applique aux baux résidentiels et socioculturels. Plusieurs concepts sont définis très clairement à l'article 2 de cette loi, expliquent les experts en la matière. C'est par exemple l'agence immobilière, l'agent immobilier, le bail résidentiel, le bail socioculturel, le courtier immobilier et j'en passe. Une autre innovation est à voir à l'article 9 de cette loi qui stipule qu'un arrêté du ministre ayant les baux alloyés dans ses attributions organise les fonctionnements des agences et courtiers immobiliers. Une nouveauté dans cette loi est aussi relative au délai de préavis pour résilier le contrat de bail. La loi parle de 3 mois pour le bail résidentiel et 6 mois pour le bail socioculturel. L'innovation la plus attendue de cette loi réside dans le régime des sanctions pénales et civiles qu'il impose. C'est ainsi que l'article 39 de cette loi stipule, je cite, « Tout bailleur qui perçoit une garantie locative supérieure à 3 mois pour le bail résidentiel ou à 6 mois pour le bail socioculturel est puni d'1 à 3 mois de servitude pénale principale et d'une amende allant de 3 à 6 mois de loyer ou d'une de ces peines seulement ». Voilà qui réjouit davantage l'association des locataires. Cette structure estime que grâce à cette nouvelle loi, le locataire peut vivre paisiblement.
Merci Berry Franklin Louchaka. Charles Cuesso, vous êtes chef de division urbaine de l'habitat à Tchangou. Comment avez-vous reçu la promulgation de cette loi?
Merci Franklin.
Alain
Hirong. Il faut que nous puissions vous dire qu'en tant que utilisateur, fonctionnaire de l'État, exerçant dans ses ministères, ayant le beau alloyé dans ses attributions, nous avons été très contents parce qu'il y avait un vide juridique au niveau de l'application en cette matière. Cette loi a été accueillie à bras ouverts à différents niveaux, que ce soit au niveau de la responsabilité de notre secrétaire général, au niveau des divisions urbaines qu'au niveau des agents. Donc, c'est un peu un plaisir. C'est comme ça, à travers ces micros, nous voulons profiter de l'occasion pour dire merci et féliciter les chefs de l'État qui en a promulgué et féliciter les sénateurs et députés qui en ont abattu un travail des titans.
Voilà. Alors, vous parlez de vide juridique. Il n'y avait jamais existé de loi avant ou la loi qui existait avant était devenue obsolète et n'avait jamais été appliquée?
Non. La loi qui existait, Monsieur Alain, était devenu désuète. Par rapport à la réalité que nous étions en train de vivre sur le terrain, elle n'était plus cadrée. Et c'est comme ça que vous allez constater que certains ministres signaient certains arrêtés pour pallier à cette difficulté de l'existence d'une loi qui devrait régir cette matière.
Alors, pour vous, si on devrait parler des innovations, quelles sont les principales innovations?
Bon, les principales innovations, Monsieur Alain, je veux rentrer un peu le plus vers la fin de cette loi. dans le titre qui parle des sanctions. Parce que si vous prenez les différents arrêtés signés par nos différents ministres et gouverneurs de certaines provinces, vous allez constater qu'il n'y avait pas de mesures répressives qui permettaient à nos services d'avoir cette facilité de contraindre de bailleurs ou de preneurs. La plus grande innovation, c'est celle-là.
Le régime des sanctions.
Le régime des sanctions.
Alors, en parlant de régime des sanctions, on l'a suivi tout à l'heure dans les détails que nous a donné Berry. Tout bailleur, c'est l'article 39 qui perçoit une garantie locative supérieure à 3 mois pour le bail résidentiel ou à 6 mois pour le bail socioculturel et puni à 3 mois de servitude pénale principale et d'une amende allant de 3 à 6 mois de loyer ou d'une de ces peines seulement. Et donc c'est là l'une des principales innovations, comme vous le dites.
Bon, s'il faut que nous puissions dire l'une des principales innovations, mais moi je prends cette titre in globo. Si vous prenez ce titre in globo, vous le lisez, vous allez sentir que le législateur en a pensé à apaiser la population par rapport à cette matière. Monsieur Erlin, vous devrez comprendre que cette matière en a donné des fils à retordre auprès des autorités qu'au niveau de la population. Et nous avons la population doit s'apaiser. Quand nous prenons seulement un article, je me dis, il faut le prendre d'une manière globale, vous allez vous retrouver et que lorsque nous aurons appliqué correctement cette loi, je pense qu'il y aura certains changements au niveau de ces pays en cette matière.
Alors qu'avant qu'on voie l'aspect application, il y a d'autres spécialistes qui pensent par exemple que cette loi a également le mérite de définir clairement certains concepts, notamment agence immobilière, agent immobilier, bail résidentiel, et tous ces concepts parce qu'il y avait visiblement un désordre épatant.
Monsieur Alain, je vous dis, je suis parmi les chefs des divisions dont nous sommes sur terrain. Sincèrement, dans ce secteur, il y avait un désordre impossible. Chacun pouvait se présenter un matin qui s'est dit agent immobilier.
Commissionnaire,
comme on l'a dit. Je n'ai jamais aimé utiliser ce terme-là. Il y a quelqu'un qui se lève un matin qui s'est dit patron d'une agence immobilière. Quelqu'un qui se lève un matin, il s'est dit que responsable d'une association à quiconque. Mais je crois avec cette loi, elle est venue régler certaines choses d'une manière claire et il ne reste qu'à l'autorité au niveau du ministère. D'ailleurs, vous sentez qu'on a demandé au ministre de réglementer certaines matières que cette loi a prévues par rapport aux arrêtés que le ministre aura assignés.
Alors, les garanties d'application d'une telle loi, quelles sont-elles ?
Monsieur Alain, le garantie, nous devons dire d'abord, la population doit commencer d'abord à s'approprier de cette loi.
Il faut la vulgariser.
J'y arrive. La population doit s'approprier. La vulgarisation, il faut maintenant lancer la balle vers l'administration, ensemble avec ses différents partenaires, pour que nous puissions descendre sur le terrain. Faire une très grande campagne de sensibilisation au niveau, j'insiste, sur toute l'étendue de la République pour que la population se retrouve par rapport à l'applicabilité de cette loi.
Et donc, vous pensez que le terrain s'y prête ?
Ça, je vous rassure. Je vous rassure que nous sommes déjà au travail. Au niveau de notre ministère, ne vous en faites pas. Il y a déjà un travail qui est en train de se faire dans ces sens. Au moment venu, vous allez sentir comment on aura à nous déployer sur le terrain pour que de façon qu'il y ait une très grande campagne qui va se faire et que la population puisse s'approprier de cette loi.
Mais souvent, le comble, comme l'ont constaté plusieurs observateurs, c'est que on lance des campagnes de sensibilisation, ça commence bien, mais après, ça n'a plus de lendemain.
Mais c'est vrai, monsieur Alain, vous l'avez dit que nous commençons par rapport à certaines choses, mais lorsqu'il s'agit de l'application. Mais je voudrais vous dire, la plus grande différence, c'est l'existence d'une loi qui n'a jamais existé. Nous étions en train d'œuvrer à tâtonner à travers certains arrêtés qui aussi avaient ses limites. Mais je crois cette fois-ci, au niveau de l'administration, nous allons nous y prendre et ainsi qu'au niveau de nous-mêmes, qu'au niveau des cadres, qu'au niveau des agents, pour placer chaque homme à sa place pour que la chose réussisse.
Jean-Jacques Benamey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président national de la Ligue des locataires. Pour commencer, l'article 1 de la présente loi parle plutôt du terme « preneur » en lieu et place des locataires. Commençons par là.
Oui, je ne vois pas la différence. Je crois que le terme « preneur » est repris, je crois que c'est la loi qui porte sur le contrat de louage de 1888. C'est cette loi-là qui a cité le terme preneur. Et c'est là où nous avons relevé un peu de faille dans cette loi, parce que tantôt on parle du propriétaire, parce que le bailleur n'est pas propriétaire nécessairement. Le bailleur est bailleur et le propriétaire peut ne pas être bailleur. Donc il y a quelques failles qu'on a relevées. Je parle comme acteur social. Hein. Donc il a fallu que le législateur tiennent compte de l'évolution. Vous avez entendu, le chef de division est précis sur ce point-là. 1888 n'est pas 2016. Donc aujourd'hui, le terme preneur n'est plus dans le langage du Congolais, c'est le terme locataire qui est cité. Donc les législateurs devaient plutôt parler du locataire et non du preneur. Donc c'est comme s'il nous ramène encore à 1888 pour retourner à ce langage-là.
Alors, puisque vous parlez, vous évoquez déjà les failles, est-ce qu'il y en a d'autres avant que l'on voie les innovations?
Bon, je crois que le plus essentiel, c'est ce que tu viens de relever là. Donc, nous avons préféré que chaque terme qui est actuel et courant dans notre pays soit repris comme tel, parce que les contrats de louage, s'il faut donner les différences entre les deux par rapport au contrat de, en fait, la loi sur les contrats de louage, par rapport à la loi sur les bons à loyer, les deux, c'est différent à quel niveau. Nous avons les contrats de louage qui étaient beaucoup plus concentrés sur tout les locations, y compris les bails à ferme. Vous voyez que c'était beaucoup plus élargi. Alors, ça perturbait un peu le travail de l'acteur administratif qui est là, ce qui fait qu'il fallait absolument cadrer les choses dans un contexte beaucoup plus précis, notamment dans les baux à loyer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les administratifs peuvent se frotter les mains pour dire, voilà, nous avons la matière précise sur laquelle nous pouvons établir notre gestion.
Alors, quelles sont les principales innovations contenues dans cette loi, selon vous?
Oui, nous, on a aimé, la première des choses, c'est la gestion administrative du locataire et du bailleur. Vous savez, nous, les locataires et nos partenaires bailleurs, nous vivons aujourd'hui, ça fait plus de 100 ans, il est difficile de nous voir entrer dans une parcelle et être enregistré. Donc je peux être locataire pendant 30 ans, jamais l'État ne reconnaît ce statut-là, ni les bailleurs non plus. Et à travers cette ignorance-là, par l'État, il y a beaucoup de faits qui constituent un manque à gagner pour l'État, notamment les fiscs. Donc ça échappe. Il y a tout un mécanisme qui échappe à l'État. Dans le bail, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, lorsqu'on n'est pas enregistré auprès du service de l'habitat, dites-vous que nous sommes tombés dans beaucoup d'abus. Je vous donne le cas. Les phénomènes 10 mois de garantie. C'est parti du fait que les deux parties n'ont jamais voulu se faire enregistrer auprès du bureau de l'État.
Et là, par exemple, vous faites allusion à l'article 3, notamment.
Oui. Donc, nous sommes là. Le locataire entre dans la parcelle. Le bailleur lui dit, écoutez, monsieur, si tu me parles de l'État, emballe tes histoires, tu pars.
À prendre ou à laisser.
Alors, là, le locataire en position de faiblesse s'est dit, écoutez, vivons comme ça, dans l'illégalité. Et là, ils prennent 10 mois, 15 mois, une année, 2 ans, 10 ans, sans payer un seul franc dans la caisse de l'État. Et l'État ne les reconnaît pas. Ce qui nous a toujours tiqué, c'est quoi? C'est lorsque les deux parties, dans toute illégalité, se présentent au bureau de l'habitat pour demander cette fois-là un document pour résilier les contrats. On vous dira, non, écoutez, les contrats sont tacites et qu'on sort tout ça. C'est l'anarchie. Nous, on a appelé ça l'anarchie. Pourquoi en amont, administrativement, ils ne sont pas enregistrés? En aval, vous vous donnez la peine de donner un document officiel.
Et c'est surtout quand il y a des problèmes.
Nous aurions pu souhaiter que l'État dise aux deux parties, écoutez, dans l'amiable, séparez-vous. Mais lorsque l'État exige des frais, c'est déjà un fait officiel. Et là, nous continuons à déclarer que les préavis établis actuellement sont totalement illégaux parce que en amont, il n'y a aucun document établi. Et quand il n'y a pas un document établi, soit on passe par les pénalités, là, je ne vais pas encore comprendre. Mais s'il n'y a pas de pénalité, il n'y a aucun document qui a circulé en termes de validité de deux parties, et qu'on fait tomber un document officiel pour dire on ne sait pas, c'est comme si on a une femme qu'on a épousée illégalement, mais on vient pour demander le divorce.
Alors, l'article 22 stipule, je cite, il est interdit au bailleur d'exiger le paiement anticipatif du loyer. Ça aussi, c'est
oui,
un problème.
Oui, ça, c'est un garde-fait important. Un garde-fait important parce que, là, on se disait, mais lorsque vous mettez une sanction autour de la question des garanties locatives. Il est dit que lorsque vous dépassez autant de mois de garantie, on vous sanctionne. Mais le bailleur est rusé. Il va toujours chercher les concepts par lesquels il peut échapper à la chose. On a beaucoup apprécié le législateur du fait qu'il a mis le garde-fait à ce niveau-là. C'est le terme le plus utilisé. On peut prendre une garantie locative de 3 mois et on vous demande un anticipatif de 10 mois. Ça fait 13 mois et vous n'avez pas un mot à dire, vous allez concéder. Maintenant qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'anticipatif, je pense que nos amis bailleurs vont pouvoir s'incliner devant les principes.
Maître Ruffin Louco, vous êtes juriste et chercheur en droits humains. Comment vous analysez la promulgation de cette loi?
Bon. Merci Alain pour la problématique que vous avez préféré, n'est-ce pas, aujourd'hui, soumettre à la population et donner les détails, n'est-ce pas, qu'il faut. Bon, nous, les praticiens, lorsque nous avons vu cette loi sortir, nous avons été surpris par son contenu.
Agréablement ou désagréablement?
Désagréablement.
Pourquoi?
Principalement parce que d'abord, j'informe à tous les deux qui disent qu'il n'y en avait pas de texte, c'est faux et archi-faux totalement. Il y a le décret et qui est parfait. Le décret royal du 30 juillet, vous me voyez, je suis sur l'arcier ici, décret royal du 30 juillet 1888. Ce décret-là, en ces articles 370 à 433, prévoit les beaux-alois. Et ça veut dire 470 à 433 prévoit toute la matière. C'est donc 63 articles en tout. 63. La présente loi n'a que 43.
Alors maître, quand vous dites...
La présente loi n'a que 43. 49.
Alors, quand vous dites que le décret était parfait, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce qu'il
est toujours actuel,
il n'a pas été appliqué?
Il est toujours appliqué, mais... Il souffre des maladies que souffrent toutes nos lois. Ça veut dire les suivis. Point. Toutes nos lois suivies. Qui sont les autorités qui avaient été chargées par telle ou telle autre loi chargées de l'appliquer? Nous ne le voyons pas. C'est tout. Cette maladie-là concerne, donc contamine toutes nos lois. Toutes. Et je vais démontrer ça. Je m'arrête uniquement à la loi Porta Beaux-Alois. Je suis, et l'ensemble des praticiens, nous sommes tellement surpris qu'on veut résoudre un problème de Kinshasa et on l'étend sur l'étendue du territoire national. Le problème de la capitale, qui ne sont ni à Lubumbashi, ni à Goma, Bukavu, Kindu, ni à Kisangani, Isiro, Buta. Le problème de la capitale a des problèmes spécifiques et on ne devait pas étendre ces problèmes et les généraliser. Alors, voici les problèmes qu'on devait résoudre pour la capitale.
Allez-y.
1. L'innovation des garanties de 10 à 13 mois. Ce sont là les problèmes que la loi devait résoudre, notamment pour une ville qui s'appelle Kinshasa. D. L'absence de contrats écrits dans la plupart des bailleurs ou des baux qui étaient consentis par les bailleurs. 3. L'arrogance des bailleurs qui refusaient la présence de l'État. Ça, ce sont des problèmes de Kinshasa.
4. Qui ne se posent pas
dans d'autres provinces. 4. Les défauts totaux de meublement des lieux loués. Ça veut dire, le fait pour Kinshasa de donner à location des toilettes, toutes sortes de locaux, il n'y a ni toilettes, ni douches, ni courant, ni fenêtres, tout on met à location. Ça, c'était parmi les problèmes de Kinshasa. On mettait à location des chantiers qui n'ont que la dalle pour être à location. Et vous voyez des commissionnaires circuler pour ça. C'était parmi les problèmes à résoudre pour Kinshasa. Et enfin, le problème de préavis. Voilà les problèmes principaux qui se posent, ça fait 20-30 ans à Kine, qui devaient être résolus par un texte de loi qui ne devait pas être national. Pourquoi ça ne devait pas être national? Parce que la loi de 1888 dit que la source de droit en matière de baux à loyer n'est pas seulement la loi. Il y a ce qu'on appelle les usages locaux. Il y a des provinces, des villes de la République qui ont des usages locaux qui sont loués meilleurs que ces lois ici.
Alors, donnez un exemple, maître.
Les usages locaux, parce que lorsque vous allez à l'est du pays, pour louer, pour l'est du pays, depuis l'époque coloniale, lorsque un client ou preneur aujourd'hui, le nom preneur, ce n'est pas un nouveau, c'est un terme qui se trouve dans la loi de 1888, preneur. Donc, la loi ici n'a pas innové. Preneur, c'est depuis 1888. Exemple, à l'est du pays, lorsque un locataire vit avec 15 mois de garantie, et 15 mois, il ne paye pas. Donc, il entre dans la maison 15 mois. Et ils me suivent, hein? Ils me suivent maintenant. Il entre dans la maison 15 mois qu'il a donné, et 15 mois il ne paye pas. Et on ne sait jamais plus, ça fait 50 ans d'année, 60 ans d'année. Je cite la plupart des villes de l'Est du pays.
Et donc la loi a péché par la généralisation.
Elle a péché par la généralisation, et c'est injuste, et cette loi doit être modifiée le plus rapidement possible. C'est une loi qui concerne Kinshasa, et c'est pourquoi je l'enseigne à tous les amis. Kinshasa, il n'y avait que des arrêtés des gouverneurs parce que le problème est uniquement local, uniquement pour la ville de Kinshasa. Alors, par rapport maintenant au contenu, les 63 articles de l'ancienne loi étaient les plus meilleurs parce que parmi les problèmes qu'on doit maintenant régler et que cette loi ici n'a pas réglé, c'est d'abord principalement l'obligation pour toute maison qu'on doit mettre en location d'être une maison meublée, une maison habitable. Ce qui se passe en Gaba, Makala, Kisenso et Konsoi, et j'en passe comme on le dit en français, de mettre en location cette porte avec une toilette et une douche, ça c'est inacceptable. Merci. Cette loi aurait dû résoudre le problème, quel problème? Que ne peut être mise en location que les locales contenant point, point, point. Ne peut être mise en location qu'une maison. Pour merci, qu'on maître. Fasse bouger les arrogants bailleurs.
Merci, je vois Charles Cuesso, vous regardez d'un air tout ébahi. On va lui donner la parole pour répondre. Mais nous prenons pour vous, Charles Cuesso, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
John Kamangou, depuis Kinshasa. La promulgation de cette loi salutaire pour les Congolais est une chose et son application sur terrain en est une autre. Pendant cette loi s'inscrit dans une opération commerciale qui ne déroge pas au principe de la loi de l'offre et de la demande. De ces faits, plus il y aura de demandeurs, plus les bailleurs seront tentés de ne pas respecter cette règle aussi longtemps qu'il n'existera pas en face une concurrence du gouvernement qui souffre lui-même d'une insuffisance en matière de logement public. Ainsi, parce que l'État est au-dessus de tout, comment entrevoit-il l'application de cette loi au moment où la cartographie des maisons en location, voire même de leurs propriétaires, n'est pas à la portée de tous pour faciliter la dénonciation d'un quelconque dérapage?
Comment vous analysez cette réflexion, Charles Cuesso?
Je suis pratiquement d'accord avec l'intervenant quand il est en train de parler de l'applicabilité en soi de cette loi par rapport à un déficit des logements que nous allons...
Que l'État aurait dû construire en amont.
Exactement. Mais, monsieur Alain, fallait-il attendre que nous puissions commencer d'abord à construire et après on puisse avoir une loi? Ou nous avons une loi et l'État, à son tour, ferait cet effort-là de doter les différentes provinces avec des logements sociaux.
Disons qu'il y a déjà des logements sociaux à Kinshasa à 1800 dollars.
Bon, c'est vrai. S'il y en a 1800 dollars, je crois que l'État ou le gouvernement qui est responsable y penserait. Nous sommes de ces ministères. Y penserait aussi à construire des logements à moins de ces taux-là qui permettraient à la population la moins nantie d'occuper aussi ces maisons-là. Alors, je voudrais dire, notre ami a posé un problème qui est sérieux, qui est un problème de l'offre et de la demande. Les bailleurs se retrouvant, l'État se retrouvant devant une situation qui, les maisons qu'on devrait donner en location pour permettre à ce qu'on arrive à appliquer facilement cette loi, trouver dans cette difficulté. Mais le problème se pose à quel niveau? Le problème se poserait au niveau de l'administration. je crois, mon ami Jean Benamé l'en a souligné. Il faut qu'au niveau de l'administration, nous commençons sérieusement à mettre cette loi en application. De façon que ceci permettra que l'État, lentement et sûrement, aura à mettre de logements sociaux à la disposition de la population et que la population sentira qu'il existe une loi que nous aurons à régler tant soit peu. Parce qu'il faut commencer quelque part. S'il faut que nous puissions jour le jour se plaindre qu'il n'y ait pas de loi, qu'il n'y ait pas de loi, et lorsqu'il y a encore une loi, on commence à se dire, je crois que la loi, elle est la bienvenue.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à Maître Louko qui dit que la loi, cette loi notamment, pêche par sa généralisation? Il s'agit des problèmes de Kinshasa qu'on a extrapolés à toute la République.
Monsieur Alain, l'autorité politique avant d'agir, il constate les faits sur terrain, n'est-ce pas? Nous sommes à Kinshasa. Vous croyez qu'à travers la République, la situation serait la même chose? Je ne pense pas. Si Maître Louko est en train de dire qu'on a résolu le problème de Kinshasa, c'est vrai, le problème peut être plus criant à Kinshasa. Quand vous arrivez à Lubumbashi, vous êtes dans la ville de Bandundu, vous êtes à Kikwit, vous êtes à Goma, que j'y ai été, vous êtes à Bukavu, la situation ne serait jamais la même chose, même si il y aura autant de lois. Mais je pense
que sur les principes, est-ce que la loi n'aurait pas dû résoudre les problèmes sur les principes que plutôt sur des caprices?
Non. On n'en a pas résolu des caprices. Maître a soulevé un problème disant qu'on a réglé le problème de Kinshasa et qu'au niveau des autres provinces de l'Est, précisément, et que la situation n'est pas celle de Kinshasa. Mais si dans cette loi, il y a certaines imperfections. Je crois que nous devons commencer d'abord à appliquer cette loi ensemble avec les praticiens. Lorsque nous aurons constaté certaines imperfections, nous arriverons ensemble à saisir l'autorité compétente pour dire voilà, il y a ceci, il y a ça, ici il faut modifier. Mais je pense que cette loi, elle est bien arrivée au bon moment. C'est vrai qu'il y aura certaines imperfections que certains praticiens, que certaines personnes auront à soulever. Et à la longue, nous pouvons nous retrouver ensemble avec la société civile, les différents partenaires, pour que nous arrivions en un temps record, si pas tout de suite là,
à l'amender.
À l'amender.
Donc commençons d'abord par l'appliquer.
Tout à fait.
Jean-Jacques Benamé, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemie dans la province du Tanganyika.
François Monangwa de Kalemie. Ce qui fait que les bailleurs demandent l'avance locative, ça justifie par le fait que certains locataires sont devenus escrocs. Ça peut arriver à la fin du mois, ce locataire vous dit, c'est moi, je n'ai pas encore eu l'argent. Sinon, je vais vous payer tous les deux mois ensemble. Arrivé au troisième mois, le locataire vous quitte sans vous informer. Bref, le locataire prend fuite avec une dette. Voilà pourquoi le bailleur demande une avance locative juste pour craindre la dite escroquerie.
Jean-Jacques Benamé.
Merci beaucoup. Moi, je pense que, heureusement, je suis en face du gestionnaire administratif de bail. Tous les jours, il a des dossiers sur sa table. Je reviens encore à mes paroles ici. Le fait d'accepter de vivre loin de l'État, c'est ce qui pousse les deux parties à se faire des aventures. Des aventures, c'est pas seulement le locataire, même le bailleur aussi. Quand quelqu'un va dans les 10 mois, s'il faut prendre les principes de droit, c'est un escroc aussi. Donc, de part et d'autre, vous sentez que les locataires escroquent, les bailleurs escroquent. Donc, il fallait un cadre précis, un cadre juridique qui pouvait mettre tous les deux sur le même pied d'égalité de façon que l'escroquerie en question s'arrête. Je pense que, mon ami, tu n'as pas tort, les locataires le font, et vous aussi, vous le faites. Donc, on n'a pas de parti pris. C'est ce qui est beaucoup plus aisé pour nous, parce qu'on a vu cette loi sortir et que désormais, on ne pourra plus passer par les escroqueries.
Alors, dans les échanges qu'on a eus dans les couloirs, Jean-Jacques Benamé, vous nous avez expliqué comment vous vous êtes battu pour que cette loi soit promulguée aujourd'hui. Mais vous avez suivi Maître Louko dire que le décret royal du 30 juin 1888, dans ses articles de 370 à 433, était pratiquement parfait.
Oui, je crois que 1888, 2016, ça fait plus ou moins 100 ans. Plus que 100 ans d'ailleurs. Maître n'a pas tort, il n'a pas aussi raison non plus. Je pense que nous sommes dans le contexte de l'évolution. Nous avons mis 8 ans, je crois, jour pour que cette loi ici soit promulguée. C'est pas pour rien. Je vous donne un exemple simple. Nous avons à Kikwit une cité banlieue qu'on appelait Kazama. Je crois, maître, vous avez déjà été là-bas. Si vous allez à Kikwit aujourd'hui, vous verrez que Kikwit cité et Kazama constituent une même cité. Alors que, à l'époque, c'était pratiquement un écart de plus ou moins 3 kilomètres. Quand vous allez aujourd'hui à Kananga, prenez la rivière Lulua, Matamba et Mikalai. Vous êtes presque dans une même cité. Bref, il y a un élargissement en termes de d'aménagement que la population elle-même est en train de créer. Donc, maître, ce qu'il dit là, il y a perfection, bien sûr, mais cette loi-là, si je vois bien, elle a été conçue lorsque le peuple congolais, je pense, était à 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 80 millions d'habitants. Je ne sais pas si maître peut me créer un miracle pour dire, écoutez, une loi conçue pour 6 millions d'habitants peut être imposée à une population qui est égale à 80 millions d'habitants. Je pense qu'il y a un problème. Nous devons carrément changer cette loi-là. On l'a changée parce que ceux qui vont en province savent que le taux démographique de la population est en train de prendre de l'ampleur. C'est là où je rejoins notre ami qui dit que la loi de l'offre et de la demande s'impose. Le cas de Kinshasa. Kinshasa aujourd'hui a combien de sites ou combien de cités créées par la population elle-même? Vous prenez Bibwa, vous prenez Kindele, vous prenez Mpasa, vous prenez Maluku, Kinkole,
Kojelos.
La population est en train de s'étendre dans des conditions où l'État
je pense que pas.
Le chef de division est en train d'écouter. Et là, l'État est obligé. Nous, la population, on va exiger que l'État crée les logements suffisants dans ce site-là. Si aujourd'hui, par exemple, l'État prend soin de rendre Bibwa suffisant ou habitable.
Urbanisé.
On peut l'urbaniser. On peut amener les gens à aller vivre normalement à Bibwa par rapport à l'état qu'on voit aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas un problème. Mais l'important, c'est quoi? Il faut imposer une législation qui est adaptée au contexte. Donc, vous n'allez pas demander aux gens qui habitent Moudi, qui n'ont jamais vécu avec la loi de 1888, de pouvoir l'appliquer parce qu'ils ne connaissent pas ça.
Alors, au début de votre propos, vous disiez, Jean-Jacques Benamey, que cette loi a le mérite notamment d'assurer la gestion administrative des bailleurs et locataires, mais on oublie un partenaire important, c'est l'agent immobilier connu sous le nom commissionnaire.
Nous, on a félicité le législateur. On l'a félicité parce que cette fois-ci, il l'a cité un moment. Non seulement il l'a cité, mais aussi, il lui a octroyé la méthodologie de travail en termes de finances, en termes de courtage. Désormais, par exemple, par rapport à ce que la loi dit, c'est la personne qui offre le marché ou qui exige le marché chez qui les courtiers sont obligés d'être payés. Donc, si c'est moi, le locataire, qui demande le marché, c'est moi qui paye mon courtier. Si c'est le bailleur qui a offert le marché, c'est le bailleur qui paye le courtier. Si les deux personnes ont demandé au même moment, les deux personnes se partagent la charge. Alors, les problèmes se posent à ce niveau-là. Quand est-ce que nous saurons que c'est celui-ci qui a offert, c'est celui-ci qui a donné, ou au même moment ils ont demandé? Voilà. Donc, c'est là la charge de l'État.
Merci Jean-Jacques Benamey. Maître Ruffin Louko, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Boutembo Nord, qui vous.
Je le tiens à Boutembo, province du Nord Kivu. À mon humble avis, la nouvelle loi sur les contrats de bail qui vient d'être promulguée protégera davantage l'État congolais qui est la plupart des cas locataires dans des bâtiments ou maisons d'un particulier et non la pauvre population qui n'est même pas sensibilisée sur cette loi. Je me demande, l'État n'a pas encore réussi à régler les problèmes des conflits fonciers. Va-t-il régler les problèmes entre locataires et bailleurs alors que nos officiers de police judiciaire souffrent encore des carences des documents juridiques dans leurs bureaux à l'intérieur du pays?
Maître Louko.
Bon. C'est d'ailleurs notamment l'erreur de cette émission de donner la lumière par rapport à ce texte pour que chaque citoyen ne puisse pas l'interpréter dans son sens qu'il trouve convenable, que non, c'est une loi qui est venue régler le problème de l'État lui-même vis-à-vis de ses bailleurs qui sont la population dans lesquels, nettement, l'État, n'est-ce pas, sollicite et auprès desquels l'État sollicite de baux à loyer pour mettre ses bureaux. En principe, cette loi devait résoudre le problème que nous avons indiqué. Et le problème notamment des commissionnaires. Le problème des commissionnaires devait être absolument résolu. Parce que là, ça n'a aucune base juridique, le un mois du coursier. Un mois. On devrait même fixer un montant en termes de pourcentage du loyer. Et non tout un mois, tout un loyer par rapport aux commissionnaires. Parce que ça devient maintenant la profession où tout le monde, comme il n'y a pas assez d'emplois, où tout le monde se jette. Femme et enfant, père et vieillard, tout le monde est dans la... Et vous savez ça encore comme conséquence, les commissionnaires sont parmi les responsables de la destruction de nos villes. Je suis désolé de les dire directement, ils écoutent, avec le morcellement. Ça, ce sont les commissionnaires. Lorsque la parcelle a 25 sur 30 mètres ou 40 et qu'elle ne trouve pas de preneurs, ceux qui viennent avec des machettes pour couper, ce sont les commissionnaires. Non, tika bisoto morcelango. Nous morcelons ça à 10 sur 5, et 7 sur 8, et vous voyez la personne venir construire tout l'espace qu'il a acheté, parce qu'il n'y a ni parking, ni... Parmi le premier, je m'excuse d'utiliser un terme fort, des criminels qui détruisent l'urbanisme de notre pays, ce sont les commissionnaires. Ces gens-là devaient être contenus par cette loi, c'est-à-dire devaient être canalisés par cette loi.
Et vous pensez qu'ils ne sont pas suffisamment?
Ils ne les sont pas,
ils ont
échappé dans la maille du législateur. Ils ont échappé parce que tout simplement on n'a pas invité des praticiens. C'est dommage. Nous les disons chaque fois au Parlement, on doit inviter les praticiens chaque fois, les experts du domaine. Les députés ne sont pas des experts, ils sont des représentants, mais ils ne sont pas des experts. Est-ce que les députés sont des experts de violences sexuelles? Est-ce que les députés sont des experts immobiliers? Est-ce que les députés
mais
sont
maître,
des experts?
Vous avez à la section 2 les articles 9 et 10 qui parlent des agences et des courtiers immobiliers.
Mais c'est pas suffisant parce que les rôles devaient être absolument déterminés. Vous voyez, par exemple, lorsque nous déplorons le fait que cette loi nous avons reculé de 20 articles, environ 20 articles. La loi de 1888 obligeait les bailleurs à mettre la maison dans un état qui le permet d'être en location. Mais la loi ici a supprimé ces obligations-là. Article 11, le bailleur est tenu aux obligations ci-après. Article 3, ça c'est l'article 11, la loi nouvelle. Article ancien, la loi ancienne. Article 376, le bailleur est obligé par la nature du contrat même, et sans qu'il soit baisé d'aucune stipulation particulière. 1. De délivrer la chose au preneur, la chose louée. 2. D'entretenir la chose, de mettre la chose en état d'être louée. Toutes ces obligations ont été... Ça veut dire quoi? Mettre la maison ou les biens loués, ça peut être toutes sortes de biens loués, il faut le mettre dans un état. Et c'est ça le problème principal de Kinshasa.
Alors maître, avant de donner la parole à Charles Kouesso, il y a Gracias Otemikongo qui dit, le contrat de bail, si je ne m'abuse pas, est une affaire civile et non une affaire pénale. Pourquoi ajouter une peine d'emprisonnement à une affaire civile? Il a fallu qu'il ait juste comme innovation la répétition de l'argent perçu. Si aujourd'hui, le fait de percevoir de l'argent au-delà de 3 mois dans un contrat de bail constitue une infraction, cette infraction aura quelle nomenclature dans le code pénal?
Et c'est ça la difficulté, ça veut dire vouloir résoudre un problème et on s'entrompe, on va frapper ailleurs. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a beaucoup de perceptions d'argent? Parce qu'on laisse les bailleurs percevoir toutes sortes d'argent. La maison n'est pas encore terminée, n'est pas en état de recevoir location. Eh bien, le bailleur accueille toutes sortes de preneurs. Ça d'abord un bon auto si sandako. Donner d'abord l'argent qu'on termine la construction, qu'on finisse la construction. Et vous voyez un bailleur avoir perçu la garantie de 3, 4, 5 personnes. Donc, il y a des sanctions pénales parce qu'évidemment, il fallait qu'on ajoute des sanctions pénales. Merci. Vu l'arrogance des bailleurs. Et cette arrogance-là n'a pas été résolue par ce texte. Il fallait absolument que les praticiens qui sont sur le terrain puissent identifier les différents Merci. Problèmes et les différents remèdes pour que cette loi soit une loi utile et puisse résoudre les problèmes des différents liens en sauvegardant l'usage des liens, Merci. Les usages pour que toutes les provinces se sentent à l'aise par rapport à une loi nouvelle, une loi générale.
Charles Kouesso, il y a paracétamol Muyumba à la gala de Lubumbashi qui dit « J'estime que le gouvernement confond dans l'application de cette loi la vitesse et la précipitation ».
Vitesse et précipitation, bon, je ne dis pas tellement,
Mais avant que j'y arrive, je voudrais un peu épingler quelque chose. Lorsque Maître Louko, notre co-débatteur, est en train de dire que nous n'avions pas dit qu'il n'y avait pas une loi, mais la loi n'était plus adaptée par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Cette loi existe bel et bien, mais elle n'était plus adaptée. Par rapport au problème des agents immobiliers. Le problème, je crois, c'est vrai, est réglé. Nous aurons toujours... Vous voyez l'article 9. Si vous lisez l'article 9, un arrêté du ministre ayant le beau alloyé dans ses attributions organise le fonction d'agent, agence courtier immobilier, de syndicats des bailleurs de preneurs et ceux des intermédiaires immobiliers. Ce qui signifie qu'on laisse maintenant la responsabilité au ministre de signer un arrêté d'application dans lequel on aura à définir comment ces choses seront fonctionner. Elles vont fonctionner de quelle manière? Je crois que la loi ne pouvait pas tout déterminer au sein de la loi maître. C'est à partir des arrêtés du ministre que nous aurons à mettre certaines mesures d'application. Par rapport à cette maison-là ou les immeubles que nous aurons à faire louer. Vous y allez à l'article 17. Vous prenez l'article 17 qui dit « un état de lieu contradictoire », j'insiste. « Un état de lieu contradictoire est dressé au début et à la fin du bail. » Ce qui signifie la personne qui est venue en train de solliciter, le preneur qui est en train de solliciter un immeuble à louer. On fait un état de lieu. Lorsqu'il accepte après l'état de lieu, ce qui signifie il en est responsable.
Et en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite des relations entre les bailleurs et les preneurs locataires dans la suite des opérations?
Bon, je crois si nous pouvons conclure et entrevoir les relations entre bailleurs et preneurs, parce que moi j'aimerais utiliser le terme preneur, comme Maître l'a dit, c'est pas un terme nouveau. Elle pourra s'effectuer que dans le cadre de cette loi, si elle est bien appliquée. Néanmoins, même s'il y a certaines imperfections qui nous amèneraient à l'amender.
Si elle est bien appliquée. Jean-Jacques Benamé, il y a Franklin qui nous écrit de Bukavu, qui présente des obstacles à l'application de cette loi. Il parle de la mentalité des locataires et des bailleurs, qui se caractérise chacun par la loi de la force, profitant du manque de vulgarisation et du déficit de son appropriation de la loi par chaque partie. À côté de ces deux blocages, il faut ajouter les services de l'État, car à titre d'exemple, il n'y a pas un mois, une maison de l'État a été accordée à un parti particulier pour location pendant 5 ans ici à Bukavu.
Oui, notre ami a suffisamment raison. Moi, je reviens plutôt au fait que la loi ait donné l'occasion aux bailleurs de pouvoir percevoir les frais de rétablissement de son immeuble. Et nous, la Ligue, on n'a pas aimé cette pratique-là. Le locataire non plus n'est pas actionnaire dans le bien du bailleur. Donc aujourd'hui, c'est les comportements qu'on a toujours condamnés. Nous ne sommes pas là pour construire les maisons des bailleurs. Ce sont leurs biens et ils doivent les construire et nous les remettre en cet état-là. Mais s'il faut commencer à nous donner le devoir de mettre l'argent à côté pour dire, écoutez, mettez la toiture, mettez les carreaux et après, donnez-moi les chiffres, vous allez commencer à couper. Ça, c'est l'escroquerie camouflée. Et en comptabilité, on appelle ça contribuer aux frais d'amortissement, et là, nous risquons de demander au tribunal de commerce de pouvoir s'ingérer dans cette affaire-là.
Un mot en guise de conclusion, Jean-Jacques Benamé.
Je parie que la loi va réussir. Voilà.
Maître Louko, conclusion.
Je sais que je nous reviendrai encore ici une année des après. Rien n'aura changé dans le domaine. Ou plutôt, il fallait...
Je suis pessimiste.
Non, parce que non, je suis dans la pratique de chaque jour. Il fallait renforcer la présence de l'État et rendre tout contrat de bail nil si les gens ne sont pas passés devant l'autorité municipale. Deux, il fallait également ajouter que si la maison n'est pas en état de recevoir location, ce contrat-là ne sera pas validé par l'État, par les services
merci.
De l'État.
Trois,
merci, on merci. Ne peut pas accepter que vous puissiez mettre cinq merci. Personnes, cinq portes dans une maison avec une seule toilette, une seule douche.
Merci, donc, maître. Merci. Fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.